Eh ben.
Dans ce journal, nous parlerons de l'inauguration de l'accueil TVIT. C'était ce matin. On fera aussi un point sur les différentes commémorations. Et puis les compétitions du AIVA qui ont été lancées hier soir. Ce sera en fin de journal. Et cette édition, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
Un nouveau centre d'accueil pour les SDF.
Oui, on en parlait depuis de longs mois, de longues années même. Il est enfin prêt, tout près du parc expo de Mamaos. Le nouvel accueil Tévaillété, projet porté par le père Christophe et le Secours catholique, a été inauguré ce matin en présence de près de 300 invités, dont bien sûr des 100 domiciles fixes. Un peuple de la rue, comme il se revendique, qui attendait impatiemment l'ouverture de cette nouvelle structure. Repas, douches, machines à laver, mais aussi salle de formation, cuisine pédagogique et accès à des soignants ou des travailleurs sociaux. Si tout n'est pas encore prêt, les SDF devraient à terme trouver sur place de quoi faciliter leur quotidien, mais aussi tenter de s'ouvrir de nouveaux horizons. Les architectes ont conçu un bâtiment avec de grands espaces, un peu comme une église, pour répondre au cahier des charges très précis transmis par le père Christophe.
Comme je disais, c'est la rue qui continue, la rue Papeete qui continue dans ce bâtiment, qui arrive ici sous le préau. On arrive face à cette arche qui est la notion d'accueil. Et cette arche, eh ben, elle ouvre, elle permet d'ouvrir tout le bâtiment en fait. On était calé par rapport à une surface de terrain, puis on a calé le programme qu'il souhaitait pour pouvoir faire 80 repas. La donnée de base, c'était ça, c'était de pouvoir faire 80 repas à chaque fois. Donc on a conçu une cuisine capable de faire ça.
Voilà, vous avez entendu Eric Raffis qui, avec Nelly Gay, a conçu ce nouvel accueil Tévaillété. Le dernier site avait plus de 30 ans et n'était plus adapté. Cette fois, le bâtiment à 250 millions, financé par des mécènes et par l'Église catholique sur un terrain du pays, est aux normes et les administrations de la Polynésie devraient venir aider, notamment sur la partie formation et orientation. La ministre des Solidarités, Chantal Galnon, précise que d'autres structures publiques, cette fois, sont là pour s'articuler avec ce nouvel accueil.
Comme vous le savez, bon, il y a un centre de jour qui a été mis en place il y a à peu près 2 mois. Il faut dire que je souhaiterais rallonger le centre, mais je me dis qu'il faut aussi travailler sur un centre de nuit mieux organisé que ce que nous avons actuellement, de manière à ce que nos personnes sans domicile fixe ne restent pas sur place mais bougent, quoi, que ça ne soit pas des genres de pension, que ça se fasse comme ici, comme un centre de jour dans lequel les personnes sans domicile fixe puissent bouger.
Et ce centre Tévaillété devrait prendre encore quelques semaines pour fonctionner à plein régime. Pour rappel, on estime que 350 personnes vivent dans la rue dans la zone urbaine de Tahiti.
Une commémoration dimanche à la Presqu'île.
Plusieurs membres du gouvernement, dont la vice-présidente Eliane Tevaitua et peut-être même le président Moetei Broserson, vont répondre à l'invitation de 193. L'association de défense des victimes des essais nucléaires a choisi de commémorer le 57e anniversaire du premier tir réalisé en Polynésie, non pas à Papeete, comme la plupart des années, mais à Teahupo. Une marche, des discussions et la projection d'un documentaire sont au programme. C'est à partir de 6h, dimanche donc, pour cette première édition du 2 juillet, organisée depuis les territoriales. Et malgré le changement de couleur à la tête du pays depuis la victoire du Tavigny, les anti-nucléaires, qui sont historiquement proches des indépendantistes, comptent travailler de la même façon, comme l'explique le président de l'association 193, frère Maxime.
Le Tavigny qui est au pouvoir, c'est donc la population qu'il a élue pour, disons, gérer les affaires du pays. Et donc, c'est toujours la même demande que nous faisons pour que, justement, il porte ce dossier-là devant l'État français et qu'il défende la position, disons, de la population. Ils n'ont rien fait encore pour le moment, donc on attend la suite. Ben, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que l'État reconnaisse être responsable de toutes les conséquences des essais nucléaires qui se sont passés en Polynésie française.
Le frère Maxime pour l'association 193 qui rappelle que des dizaines et des dizaines de dossiers de demandes d'indemnisation ont été formulés auprès de l'État. Et à noter que sur ce sujet du nucléaire, une minute de silence sera observée à 9h lundi dans toutes les administrations. Les drapeaux seront également mis en berne.
Des commémorations, il y en avait hier. Pour le 29 juin, les indépendantistes étaient à Phare.
Oui, comme chaque année depuis 1985, les militants pour l'indépendance se sont rendus sur la stèle de Tavaralo pour y commémorer les morts des combats franco-tahitiens qui ont précédé l'annexion du Fénois. Alors devant la stèle, on croisait des élus du conseil municipal, des dirigeants Bleu Ciel dont Oscar Temaru et Anthony Géros, le président Moetei Broserson, mais surtout Eric Spitz, une première sur ce site pour un haut commissaire. Alors Eric Spitz n'a pas participé directement à la cérémonie, il est venu un peu plus tôt, c'est ce qui était convenu avec les dirigeants indépendantistes. Il a déposé une gerbe de fleurs devant le monument, une façon pour le représentant de l'État de montrer que les deux visions du 29 juin, synonyme, on le rappelle, de jour de deuil pour les indépendantistes et au contraire de fête de l'autonomie pour les partisans de la France, eh bien qu'elles ne sont pas contradictoires, ces deux visions.
Ces deux visions ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Oui, au nom d'un idéal dévoyé, la France a fait couler le sang, ici, le 17 avril 1844. Mais cet épisode tragique ne doit pas occulter, avec le recul du temps, l'affection mutuelle et profonde qui s'est développée entre la France et la Polynésie depuis plus de 150 ans.
Le discours d'Eric Spitz a été très applaudi par le petit groupe de dirigeants et militants indépendantistes présents. Il salue la démarche de l'État à l'image du président Moetei Broserson. On l'écoute au micro de Charlie René.
Avant d'être un discours, c'est un acte très fort qui vient d'être posé aujourd'hui par le haut-commissaire, par l'État. Et je remercie l'État, puisque vous savez que le commissaire, c'est le représentant de l'État et que s'il est là aujourd'hui, c'est que au plus haut de l'État, sa présence a été autorisée aujourd'hui devant cette stèle de Tavararo. Et donc ça faisait partie également des sujets qu'on avait abordés avec M. Darmanin. Donc non, c'est un acte fort qui a été posé et je remercie vraiment l'État et je remercie personnellement Eric Spitz.
Et moins loquace que Moetei Broserson, Oscar Temalu, lui, s'est limité à remercier le haut-commissaire qui a tenu, dit-il, son engagement, contrairement à d'autres. Il parlait probablement de ministres en visite officielle qui avaient évoqué un passage par Phare. Même remerciement empreint d'émotion chez Tony Géros, qui estime que ce geste fort va marquer l'esprit de tous les Polynésiens. Et même au-delà, notamment à l'ONU, où le Tavini ambitionne toujours de faire revenir l'État à la table des discussions sur la décolonisation de la Polynésie.
Les autonomistes, eux, étaient à Paphos.
Oui, c'était un peu plus tôt dans la journée que leurs adversaires politiques, puisque leur cérémonie a eu lieu dans la matinée. Une centaine de personnes donc se sont rassemblées à Paphos pour célébrer la fête de l'autonomie. Pour l'occasion, l'ensemble des couleurs autonomistes étaient rassemblées, un regroupement qu'Edouard Fritsch a tenu à saluer. L'ancien président qui s'est dit attaché à la date du 29 juin pour ses célébrations du pays. Vous le savez, cette date est critiquée par les indépendantistes car elle correspond à l'annexion du Fénoua par la France. Pour essayer de faire consensus, ces mêmes indépendantistes avaient d'ailleurs évoqué la possibilité de lancer une fête du pays aux alentours du 20 novembre, qui correspond aux festivités traditionnelles de la saison de l'abondance. Edouard Fritsch se dit ouvert à la discussion. Il rappelle avoir travaillé sur le sujet lorsqu'il était président. Mais ce n'est pas tant une question de date qui a marqué la journée d'hier, mais surtout les divisions encore bien visibles au sein des autonomistes durant la cérémonie. Nicole Sanquer, par exemple, se dit presque surprise d'avoir été invitée, tant elle observe, dit-elle, aucune envie d'échanger de la part des autres élus autonomistes à l'Assemblée. On l'écoute.
Pour qu'une rencontre se fasse, il faut prendre son téléphone, il faut programmer une rencontre hors médias, mais pas faire cet effet d'annonce à chaque fois, nous allons nous rassembler et finalement ensuite nous accuser de ne pas être autonomistes mais d'être alliés au Tavini. Donc on ne peut pas baser un rassemblement sur un manque de sincérité et surtout sur la même vision de l'autonomie.
Et à noter hier matin la présence du président Moetei Broserson à cette cérémonie. Ce n'était pas inscrit dans son agenda officiel, mais le dirigeant indépendantiste a été invité par Edouard Fritsch. Il dit être venu pour marquer son respect envers les autonomistes.
Une signature a eu lieu ce matin.
Oui, celle d'une convention cadre entre l'APAGE, l'association d'aide aux victimes et le parquet de Papeete. Un partenariat qui s'inscrit dans la continuité de la création en 2021 d'un texte de loi applicable au niveau national et qui donne la possibilité aux auteurs de petits délits de bénéficier d'une mesure alternative aux poursuites. Une mesure qui se traduit au Fénois par la mise en place d'une contribution citoyenne. Entendez par là une somme d'argent qui sera donc reversée à l'association d'aide aux victimes qui s'en servira pour mener des actions en faveur des victimes. Donc les précisions de Cécile Moreau, pardon, directrice de l'APAGE.
L'idée, c'est de sensibiliser les gens aux conséquences de leurs actes, sur eux-mêmes, sur leur vie, mais aussi sur la vie des gens que l'infraction impacte. C'est qu'ils prennent conscience de toutes ces conséquences et puis que ça les freine dans la commission d'une nouvelle infraction. Qu'ils choisissent d'autres voies parce qu'ils seraient conscients de l'impact de leurs gestes, de leur comportement, de leur attitude sur la société en général et sur la mobilisation de tout ce que ça entraîne derrière en termes de dispositifs pour accompagner les victimes.
Et pour le parquet, il s'agit d'éviter le classement sans suite de certains délits mineurs et donc de faire en sorte qu'il y ait une réponse pénale à une plus grande partie des infractions. Une mesure nouvelle, mais qui, selon le procureur Hervé Leroy, fait écho à celle prise en période Covid où les auteurs d'infractions pouvaient verser une certaine somme à la Croix-Rouge au lieu de payer une amende écoutée.
Je pense que la mesure de contribution citoyenne fait écho à ce qui a été mis en place ici, en Polynésie française, puisque c'était une mesure qui a été accueillie favorablement en métropole. Il y a même eu un professeur de droit qui a écrit un article de doctrine, comme on dit, sur cette mesure.
Voilà, les sommes qui seront versées à l'association d'aide aux victimes pourront varier de 5 000 à 360 000 francs selon la nature de l'infraction.
Mais ce n'est pas la seule convention signée par le parquet.
Oui, cette semaine, la justice a également signé avec l'Institut Mallarmé qui pourra désormais récupérer et analyser des échantillons de PACA confisqués par la police. L'objectif est de mener à bien une étude qui a pour but de trouver la plante idéale, à savoir pauvre en THC et forte en CBD pour lancer une filière de cannabis thérapeutique thérapeutique en Polynésie. L'ILM pourra en récupérer 500 grammes par mois.
La compétition est lancée pour les chanteurs et danseurs engagés au Heiwa Itaiti.
Oui, la cérémonie d'ouverture a eu lieu hier soir à Toata. Alors cette année, le Heiwa accueille 10 groupes de danse, 6 en amateurs et 4 en professionnels, et 12 groupes de chant en 3 catégories. Deux groupes de chant justement sont passés hier soir pour l'ouverture. Il y avait Tamari Tiperui dans la catégorie Tarava Raromatai et Tamari Teaupo qui concourent en Tarava Tahiti. La soirée s'est conclue par une prestation de danse signée au Tahitiais. Ce soir, deux groupes de danse seront notamment sur scène. C'est à partir de 18h30 avec donc Tamari Aotino Rurutu et Teoyu Maeva. A noter que pour voir les danseurs de Toakura, il faudra attendre demain soir. Au total, 25 prix sont prévus pour la danse cette année, 23 pour le chant. Des prix spéciaux peuvent également être remis au bon vouloir du jury. Des prix pour la gloire et la postérité, bien sûr, mais qui sont tout de même dotés de belles récompenses financières. 6,2 millions de francs au total, donc 1,2 million pour le seul prix Madeleine Moua, qui récompense la troupe de danse arrivée première en catégorie professionnelle. Les compétitions durent jusqu'au 9 juillet, avec les prestigieuses soirées des podiums prévues les 14 et 15 juillet. Voilà, quant à nous, bah, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 16h pour le Flash Info.
On fait comme ça. Merci beaucoup, Valdemar.